lieux de l'histoire en Pays de Savoie, une chronique de Pierre Cardona.
Chères auditrices et auditeurs, bonjour. Je vais vous faire découvrir les hauts lieux de l'histoire des Pays de Savoie. Pour ma part, je parle au nom de la Compagnie de Savoie qui a pour objectif de promouvoir les valeurs des Pays de Savoie, et notamment la culture, l'histoire, le patrimoine et le terroir, mais aussi de transmettre et de sauvegarder l'identité savoyarde. Aujourd'hui, ce lieu dont je vais vous parler est le Carmel du Reposoir, ou un monde de silence. L'agitation de la vie humaine conduit certaines personnes à se détacher de la civilisation, de ses illusions, de ses soucis, en épousant la solitude du désert. La tranquillité des montagnes favorable à la méditation, à s'engager solennellement dans une communauté religieuse. Le phénomène n'est pas nouveau. Au XIIe siècle, Aymon Ier de Faucigny signe un acte au terme duquel il donne l'ordre des Chartreux en possession entière et perpétuelle, avec pleine exemption de toute charge et servitude. La vallée, dite de Béole, qui s'ouvre au nord-est sur le bassin de l'Arve. Associé à cette pieuse décision, le Chartreux Jean d'Espagne s'écrit en découvrant le vallon au pied des Aravis. « C'est ici mon reposoir ». D'autres moines, avant lui, ont essayé de s'installer à la confluence du Grand et du Petit Foron, sans succès. Découragés par les crues subites, les éboulements, le climat humide, ils sont retournés à la Grande Chartreuse, la maison mère. Jean prend donc soin d'édifier le couvent sur une butte. Né en Espagne en 1123, il vient étudier en France, à Arles, passer plusieurs années au monastère de la Grande Chartreuse avant de rejoindre la vallée du Béole, aujourd'hui située sur le territoire de la commune du Reposoir. L'évêque de Genève bénit la première pierre. Les travaux de construction peuvent commencer. Pendant 9 ans jusqu'à sa mort, en 1160, le prieur frère Jean d'Espagne dirige avec énergie et sagesse la petite compagnie des moines. Les religieux font venir des paysans qui déboisent, défrichent, baptisent et ferment, pratiquent l'élevage du bétail. Profitant de la générosité des seigneurs de Faucigny, la Chartreuse du Reposoir se retrouve à la tête d'un capital important composé d'alpages, de bois, de vignobles, de dîmes sur les paroisses du Grand Bornand, de Thônes et de Verrier. Pour autant, le moine vit dans un monde de solitude, de prière, de contemplation, voulu par le fondateur de l'ordre Saint Bruno. Avec Dieu pour seul horizon, le solitaire porte une robe de drap blanc à cucule ou capuchon, serrée par une ceinture de cordes. Au sein de la communauté, le silence n'est pas absolu, mais de règle. Les offices, toutes les 4 heures, rythmant la journée comme la nuit. Dans sa cellule, le Chartreux travaille de ses mains, lit, médite, prend son unique repas quotidien hormis le dimanche et le jour de fête où il retrouve ses frères au réfectoire. Du pain, de l'eau, du sel et des légumes forment l'essentiel du menu. Du fromage et un fruit, une fois par semaine, un peu de vin de temps en temps, jamais de viande. Suite aux dégâts provoqués par une montée des eaux du Foron, puis quelques années plus tard par un incendie, les bâtiments sont restaurés et en 1686 et en 1717, avec ses 2 cloîtres, l'un style roman, l'autre de facture gothique, son église au décor épuré, son environnement, la Chartreuse du Reposoir devient un haut lieu de la spiritualité. Mais la Révolution se montre sans pitié pour ses membres, qu'elle condamne à l'exil et les autorités de Cluses décident d'entreposer dans ses murs de la poudre à canon, puis le monastère avec grange, four, forge, église, cellule, jardin, maison, pâturage et forêt est vendu à un Ardéchois. Cependant, les Savoyards sont de bons chrétiens et 17 fermiers du coin rachètent en indivision la cellule du prieuré. L'église, la sacristie, une partie du jardin, le reposoir devient une paroisse en 1803. Les Chartreux sont de retour en 1850, pour peu de temps. La Savoie, en effet, a réintégré le royaume de Sardaigne et les lois Sicardi ouvrent une ère de désaccord entre Turin et la papauté, avec pour résultat l'éloignement des moines vers le territoire français. 10 ans plus tard, c'est l'annexion. Les cloîtres du monastère voient de nouveau passer des robes blanches, Mais l'expulsion de France en 1903 des congrégations religieuses sonne la fin de la présence des Chartreux au reposoir. Laissé à l'abandon, le bien est mis en vente au début des années 1920. Le prieur de Carmel de Paray-le-Monial manifeste alors son intention d'ouvrir un couvent à la montagne qui lui rappellerait le mont Carmel en Palestine, berceau de l'ordre fondé par les ermites du XIIe siècle. Sur les conseils de l'évêque d'Annecy, elle achète la chartreuse du reposoir où de gros travaux sont nécessaires pour remettre la bâtisse en état, la clôturer, ajouter une sacristie et des parloirs. Le 15 octobre 1932, jour de la fête de Sainte Thérèse d'Avila, religieuse espagnole, cheville ouvrière de la réforme de l'ordre du Carmel, la vie monastique reprend ses droits et la porte d'entrée du couvent se referme sur une dizaine de religieuses appelées au désert. Après une année de postulat, suivie de la prise d'habit, 2 ans de noviciat, les prétendantes font vœu de pauvreté, de chasteté, d'obéissance, mais pour une période de 3 ans avant leur engagement définitif au sein de l'ordre. Vêtues d'une robe marron en bure, d'une scapulaire, la tête couverte d'une toque, un voile noir descendant sur leurs épaules, ces sœurs ne portent pas de chaussures, mais des sandales de cuir et des bas épais, raison pour laquelle on les nomme carmélites déchaussées. Cet office rythme leur journée. Les repas sont pris dans le réfectoire en écoutant la lecture des textes sacrés. La viande n'entre pas dans l'alimentation. Chaque jour, 1 heure du matin et 1 heure le soir sont consacrées à la prière silencieuse. C'est le temps de l'oraison, celui d'intimité avec le Seigneur. Dans le cloître roman, un cadre solaire porte une inscription en latin signifiant « Pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée à ne rien faire ?» En ce qui concerne les carmélites, travaillent de leurs mains, en cuisine, dans le jardin de leur ermitage, à l'atelier du couvent, où sont fabriquées cartes, pendentifs, broderies, croix de l'espérance en bois, bougies décoratives, sans oublier le petit baume du reposoir, produit vendu dans la boutique ouverte aux visiteurs, comme le cloître précité et l'église. À l'ombre de la chaîne des Aravis, les moniales, actuellement 20aine, se retrouvent chaque jour que Dieu fait pour chanter la messe, bavarder pendant la récréation du soir, ignorant les bruits extérieurs montant dans la vallée et du col de la Colombière. Cette chronique est tirée d'un livre de Pierre Hoffmann, Au lieu de l'histoire en pays de Savoie. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui et surtout, à une prochaine fois.